piston claque, piston claque, piston claque. Nous aimons la chanson française, piston claque. Mais nous détestons les falaises, qu'elles soient françaises ou japonaises. La balourdise, ça nous défraise. Tout ce qui est humain est nôtre, disait le coin ce bel apôtre. Cette phrase est notre devise. Notre devise, piston claque, piston claque, piston claque. D'accord pour les chanteurs poètes, piston claque. Né dans le Rhône ou à Perpète, suffit qu'ils mettent nos cœurs en fête. La poésie n'a pas de patrie. Tout ce qui est humain est nôtre, disait le coin ce bel apôtre. Voilà notre philosophie, philosophie. Piston claque, piston claque, piston claque, piston claque, piston claque.
L'émission Piston claque de ce soir sera un petit peu particulière. Vous savez bien que de temps à autre, nous avons des intérêts du côté de l'histoire, du politique, de la culture, du théâtre, du cinéma. Eh bien, ce soir, c'est une émission entière que nous allons consacrer à ce qu'on peut appeler une pièce de théâtre. Une pièce de théâtre qui recouvre à la fois l'aspect historique, politique, moral, conscience, on peut dire. Et c'est à ce titre donc que nous accueillons Bernard Gerland, qui va nous présenter une création radiophonique d'un spectacle qu'il vient de proposer au public à Lyon. Mais un spectacle qui est beaucoup plus qu'un simple spectacle théâtral, comme vous allez le découvrir en écoutant son interprétation. C'est pour ça que, même si a priori vous vous dites « Tiens, c'est assez curieux, ce n'est pas mon émission habituelle », nous vous proposons de rester à l'écoute quelques minutes après le début de son interprétation, et je fais le pari que vous serez intéressé et que vous ne décrocherez plus jusqu'à la fin de ce long texte qui va durer un petit peu moins d'une heure, avec une charge émotionnelle et artistique forte. Une présentation très courte donc, avant de livrer l'antenne à Bernard Gerland, qui est assis là en face de moi et qui se concentre. Ce texte qu'il a mis en scène, qui est de lui, s'appelle « Ma guerre d'Algérie ». Je lis le petit commentaire qui est écrit sur le prospectus d'accompagnement. « Une page d'histoire livrée à 36 ans de distance, une tranche de vie à partager. J'avais 20 ans quand j'ai mis les pieds là-bas. Un témoignage comme une confidence, c'était en avril 61, ce jour-là. On n'était plus en colo. L'Algérie, sa terre, des gens, une mémoire qui se livre, la guerre les avait tous chassés de leur terre et de leur maison. Voilà, maintenant, place à Bernard Gerland et nous nous retrouvons à la fin de cette émission pour en dire quelques mots, et si nous en avons le temps, je crains que ce soit très court, peut-être recevoir les appels téléphoniques avec les réactions de nos auditeurs ou les questions qu'ils auraient posées à Bernard Gerland.
J'avais 20 ans quand j'ai mis les pieds là-bas. J'en avais 22 quand j'en suis revenu, mission accomplie. De longues années, longues et tortueuses. C'était en 1960. La guerre durait depuis 6 ans. Elle avait commencé à la Toussaint 1954, je venais juste d'avoir 15 ans. C'est dire à quel point elle avait fait corps avec mon adolescence et ma jeunesse. J'avais eu le temps d'acquérir des convictions solides. On en causait beaucoup en famille, avec les copains. Je participais activement aux manifestations de soutien à la lutte du peuple algérien. Je lisais des journaux engagés, progressistes. Comme eux, j'étais contre cette guerre. L'Algérie devait être indépendante, c'était une évidence qui crevait les yeux. C'était bien là le sens de l'histoire. Ça ne pouvait pas être autrement. Ça ne pouvait finir que comme ça. C'est d'ailleurs comme ça que ça a fini. La guerre était donc injuste et inutile. Je ne pensais pas y aller. J'étais même sûr que je n'irais pas. Les choses s'arrangeraient bien avant que je n'aie 20 ans. Partir, moi ? Non. Non, je ne partirais pas. Partir, c'était un peu comme ce qu'on pense toujours tous, d'une maladie grave ou d'un accident, pour les autres. Quand j'ai fait mes 3 jours, les choses ne s'étaient pas arrangées. J'ai demandé Madagascar pour pas partir. Et puis j'ai aimé. J'aime encore ce pays. Je l'ai parcouru dans tous les sens, comme soldat, et à mes heures libres, comme voyageur, pour mieux connaître, peut-être aussi pour mieux comprendre. Cette terre d'Algérie, si belle, 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 éclaboussée de soleil et de ciel bleu, belle et claire, lumineuse. L'Algérie, la lumière. Quand il fait vraiment beau et clair ici, quand le temps est lumière, je pense et je dis toujours, ah, on se croirait en Algérie. Au bord, la Grande Bleue, les ports, les villes. Alger, Oran, Bougie, Philippeville, Beaune, devenu depuis Annaba, Constantine, plus loin dans les terres. Celles-là me connaissent toutes, et bien d'autres encore. Les vastes plaines du littoral, la Midija, riche, verte, gorgée de fruits. Les oranges qu'on mangeait à même l'arbre en passant. On s'en mettait partout, ça sentait bon. Et puis ces grands rideaux d'arbres, pour protéger les cultures du vent comme en Provence. Il me frappait toujours et me servait de point de repère la nuit ou au tout petit matin quand nous partions en opération. Nous traversions toujours cette plaine. Les camions, tout faisait un. Dans le silence du dehors et du dedans, pour prendre la montagne. La montagne. La montagne à perte de vue. La chaleur et le sec des étés, la rudesse des hivers, le froid, le vent, la pluie qui n'en finissait plus, la neige. Quand j'ai vu la Shrea pour la première fois, le lendemain de mon arrivée, j'ai cru que c'était le Mont Blanc. À l'époque, je ne le connaissais pas. Djebel Arid, un gras pour l'homme, vie ancestrale. La Kabylie, les Aurès, la Chifa, Palestro, d'autres villes connues, Blida, Batna, des villages, Marango, Omar, et peu à peu, plein sud, le désert, le grand désert, par milliers de kilomètres, le sable, les cailloux, les immenses vallées et plateaux où l'horizon se perd. Encore des montagnes, le Hoggar, le Tassili, encore des villes connues, Djelfa, Biskra, et puis les oasis. Gardaïa, la ville aux sept collines, sept mosquées, sept minarets. Ouargla, ah, cette ventrée de dattes dans la palmeraie. Malade, malade. Elwed, Elwed, la ville aux 100 000 coupoles toutes roses. Une tempête de sable ce jour-là. Le sirocco hurlait, brûlait, déchaînait. On n'y voyait plus rien. Et tout à coup, à Simi Saoud, le pétrole. Edjele, le gaz. Tout à coup, l'industrie, les derriques, les camions. Comme une île au milieu du désert. Une île verte et noire, posée sur le sable jaune. Le désert jusqu'au tropique. Plus loin encore, jusqu'en Afrique profonde. Au sud, après Tam, Tamanrasset, le Soudan, Agadez. À l'est, après Djanet, la Libye. Alors, la guerre, une guerre jamais déclarée, jamais avouée, jamais nommée, sinon maintien de l'ordre, pacification et bien d'autres noms encore qu'il a banalisés. Pourtant, pendant 8 ans, la France fit tourner là-bas des soldats de toutes les armes. Rappela les réservistes, doubla et même tripla la durée du service militaire. 2 700 000 jeunes participèrent à cette guerre, soit, rapporté à la population, 4 fois l'engagement des États-Unis en hommes dans la guerre du Vietnam. 30 000 n'en revinrent pas. Une vraie guerre. Nos historiens retiennent maintenant le chiffre de 300 000 morts dans le peuple algérien, combattants et civils, soit rapporté à la population l'équivalent des pertes françaises au cours de la Première Guerre mondiale. Les Algériens, eux, déclarent encore plus d'un million de morts, plus de 10% de la population d'alors. Qui dit juste, peu importe, une saignée. Cette guerre fit aussi dans nos deux peuples de nombreux blessés du corps, de la tête et de la conscience. Une guerre complexe. L'une, si j'ose dire, régulière. Armée contre armée, soldat contre soldat. L'autre, ou plutôt les autres, interne, civil, au sein même de chaque peuple, notamment du peuple algérien. Notre peuple et même notre armée ne furent pas épargnés par les dissensions, les putschs, les exactions, les règlements de compte de toutes sortes. La guerre avec ses pillages, sa terre brûlée. C'était systématique. À la fin de chaque opération de ratissage, on foutait le feu à la forêt et à toute végétation. Une sorte de bras d'honneur, une manière de saluer un souvenir de notre passage. La guerre, avec ses rafles, aucun civil n'était à l'abri, toute personne était suspecte. Hommes, femmes, enfants, vieillards. Seule la peur du ridicule nous retenait de suspecter les bourricots. Et encore. La guerre, avec ses tortures, chaque homme capturé y avait droit. C'était dans l'ordre des choses, presque banal. Une institution, en somme. La guerre avec ses exécutions sommaires, ses viols, ses débauches de toutes sortes. L'immense bordel d'Alger, à Maison Carrée, aussi grand que le marché couvert de Villefranche-sur-Saône, ma ville natale, fait pareil. En bas, plein d'uniformes, on se tenait tous. Ça causait fort, ça riait très fort. Ça fumait, ça buvait beaucoup. En haut, les femmes et leurs clients attendent dégoûtés pour toujours. Une guerre, point d'orgue de 150 années d'asservissement d'un peuple et de pompage de sa terre. Une guerre parfaitement inégale contre un peuple qui se voulait tout simplement libre. Contre les meilleurs de ses hommes, sa jeunesse, les combattants, résistants organisés en armée clandestine. On alla jusqu'à fermer la frontière avec la Tunisie par un gigantesque ouvrage fait de barbelés et chevaux de frise électrifiés, de mines, de postes d'artillerie lourdes, des régiments entiers le gardaient, infranchissables. Pour faire barrage à la pénétration en Algérie, des renforts de l'armée de libération nationale, l'OLN, l'armée du FLN. En vain. Sur le barrage, une boucherie chaque nuit. Mais il en passait toujours. D'énormes moyens psychologiques furent aussi utilisés pour faire croire, tordre la vérité, tourner les têtes des soldats, les nôtres et les leurs. Des populations algériennes et françaises, ici et là-bas. Les gens de là-bas, j'en ai tant rencontré durant ces 2 années. J'ai partagé leur vie, ils ont partagé la mienne, tout simplement. Algériens du bled, pieds noirs, Français de métropole, militaire de métier, harkis, appelé du contingent. Pour certains, ma mémoire est intacte, 36 ans après. Karitch, légionnaire, caporal-chef, bardé de décoration, rescapé de Buchenwald. Si bon. Mon ami à l'école de sous-officiers de Delis, il me parlait souvent de sa mère. Ah, cette pelle forte brune, à la gouate, à la Légion en passant, du grand luxe. J'avais bien fait de m'arrêter. Depuis, il ne m'est plus possible de boire une pelle forte brune sans penser à ce moment. Et sa photo ce jour-là, avec un mot pour moi au dos, écrit de sa main signée des deux, Karitch, Gerland. Delis, lieutenant Ledain. Un homme derrière le métier, derrière le chef, derrière l'autorité. Le matin, au lever des couleurs, j'étais fier de lui présenter la compagnie. À vos ordres, mon lieutenant. Parfois, presque un ami. Complice de mon voyage dans le Grand Sud. Merci, lieutenant Ledain. Tchadoun Sofa. Les deux chefs du village d'Aguitoun. Village regroupé autour du poste militaire de Poitiers, sur un piton dans la montagne, entre Fondouk et le barrage du Amis. Dans les tâches de pacification auxquelles j'avais été quelque temps affecté, je passais beaucoup de temps à palabrer avec eux, en tête à tête, en public aussi, dans le village ou au café mort autour d'un thé. De tout et de rien. Non. Non, pas tout à fait. J'en étais assez fier. Moi, avec mes 20 ans tendres, verts, ne sachant pas grand-chose, sinon rien de tout ce qu'ils savaient. Eux, avec leur âge mûr, leur sagesse, leur histoire, l'histoire de leur peuple, faite des souffrances que mon pays leur avait imposées, l'histoire de leur village, la guerre les avait tous chassés de leur terre et de leur maison. Tchadoun, sage, bon et doux, un ami, la confiance. Sofa, fier, une distance, quelques doutes, pas tout à fait sûr, mais sage aussi. Malika Gardouba. Ce jour-là, j'étais en patrouille à l'entrée du village pour contrôler les entrées et les sorties. Juste un instant, tamponné à jamais dans ma mémoire. Ses yeux, son sourire, son visage, une forme si jeune et si belle. Belle comme la beauté. Belle comme ses sœurs algériennes, belle comme sa terre, comme la lumière. Belle comme l'Algérie, Malika. Dibboune. Sergent Harki, pour être les deux à la fois, fallait que ce soit un bon. Bien sûr. Mon adjoint, à la Arca Kimono, basé ferme de Mercadal, entre Fondouk et Larba. Mon inséparable, toujours ensemble. Mon interprète auprès des gars. Patiemment, il m'a appris sa langue, avec l'accent. Diboun, la présence sans faille, silencieuse, efficace. Le sourire tout le temps, la douceur, agile comme pas un. Toujours en veille, en guet, à l'affût. Mon ami, comme deux frères. Il m'appelait Sergent, moi je l'appelais Diboun. Sergent, qu'est-ce qu'il y a, Diboun? Fais attention, t'en fais pas, Diboun. Diboun? Oui, Sergent? On peut y aller? Oui, Sergent. Bourgetel, le baroudeur de toutes les guerres coloniales. Comme Carriage, caporal-chef, bardé de décoration, gagné au feu. Un dur. Un cœur si gros, à vif, tellement fragile. Trop d'alcool, Bourgetel. Beaucoup trop. Quand il allait en Perme, à Alger, il nous revenait une bête. Dommage. Robin Lafontaine, deux soldats de métier. Robin, la forme, la joie de vivre. Il s'est marié là-bas à Fondouk, nous y étions tous. Lafontaine, sa femme, sa petite fille Claudine, elle vivait avec nous à l'Arca. C'est avec lui que je suis allé à la gendarmerie de Fondouk, après l'exécution du prisonnier. Oui. Drouillet. Je n'appelais comme moi, sergent comme moi, timide. Ah, je me suis toujours demandé comment il s'en sortait. Et pourtant, le chef Haddou, on n'a jamais bien su. Lieutenant Carr. Jeune officier appelé, brillant, compétent, chef de l'Arca Kimono. Ah, sa manière de lire les cartes. Moi qui avais tant de mal. Un jour, lors d'un accrochage dans la montagne, je dirigeais les tirs de l'aviation par radio. Sur la carte, je ne savais plus du tout où j'étais. Je me suis planté de coordonnées. On a tous failli y passer. Karl, un excellent chef, tout en douceur. Tout devenait plus facile avec lui, même les missions les plus difficiles. On y allait en confiance. Sergent Caro. On était venu par le même bateau. Il m'a précédé à Kimono pas longtemps. Blessé. Au cours de notre première opération, premier accrochage, dans les rochers de Rivet, quelques jours après mon arrivée. C'est là que j'ai réalisé que c'était bien vrai la guerre. que j'y étais bel et bien. On avait maintenant fini d'en causer. On allait la faire. Il était en première ligne, il a tout pris. Moi, j'étais à l'arrière, en bouclage, sur un rocher au-dessus. Nous n'avons pas eu à intervenir. J'ai bien vu tout ce qui s'est passé. Je ne quittais pas les jumelles et la radio. Un hélicoptère est venu le chercher. Je n'ai plus eu de nouvelles ensuite. C'est avec tous ces gens et tous ceux du désert aussi. Au fil des jours, des événements, de ce que j'ai eu à faire, de ce que j'ai dû faire, la guerre, que ma conscience a fait comme elle a pu pour se frayer une route, passant progressivement, sans même s'en apercevoir, des convictions premières, un demi-sommeil devenant peu à peu adhésion sans question aux objectifs de mon armée. Tu sais, à 20 ans, quand on te met une arme dans les mains, des rangers aux pieds, une tenue de combat, un galon en plus, là, tu deviens chef, tu dois commander. Tu ne te sens plus. Tu fais le Mac. Tu es un Mac. Et tu t'y crois. La tête arrive à te tourner en traînant la conscience avec elle. Je me rappelle le bistrot à Larba où l'on s'arrêtait souvent rentrant d'opération comme des chasseurs retour de battu. Cette manière de descendre des camions, de sauter des camions, de claquer les portières, cette démarche, cette façon de porter l'arme, d'entrer dans le bistrot, de regarder les gens, non, de les fixer. De demander à boire, plutôt d'exiger à boire, comme des cow-boys dans un saloon. Et on s'y croyait. Et puis, des trucs tout cons. La vie au grand air, par tous les temps, dans la montagne, de jour, de nuit, j'aimais ça. J'ai toujours aimé ça. L'épreuve physique, ça ne me déplaisait pas. Ça ne m'a jamais déplu. Les patrouilles, les gardes, les embuscades, les opérations. C'était devenu comme une sorte de grand jeu, comme quand j'étais en colo. Bien sûr, le danger, la peur, ouf, ça n'a pas grande importance quand on est, comme on dit, en situation. Rouge n'a jamais été bien courageux. Maintenant encore, j'ai peur des chiens. Des gros, plus des petits. Parfois un peu téméraire, on ne se refait pas. Et puis, on a tous un peu de fierté mal placée. Plus ou moins. il y avait aussi l'alcool. Notre principal loisir, le seul avouable. L'alcool, ça n'arrangeait pas les choses. Quand tu bois, tu ne penses plus sinon à boire. Tu n'es plus debout. Et pour couronner le tout, l'action psychologique, ce martelage idéologique sur les bienfaits de la colonisation, sur notre supériorité d'Européens et de soldats, sur l'ennemi à abattre, sur la haine des fellouses et des populations complices. Attention, tu sais ça, ça marche. Au début, tu résistes, mais à force, si tu ne combats plus, si tu ne réfléchis plus, si tu ne fais que boire et crapahuter, tu laisses aller, tu perds le sens. Ça peut t'amener au pire. Le pire comme tuer froidement. Oui. Peut-être en a-t-on déjà parlé ensemble. Oui. Une exécution comme il y en eut beaucoup. Même pas dans les règles de la guerre. Lâchement. Dans le dos. Les mains attachées. Les pieds, je ne m'en souviens plus. On appelait ça des corvées de bois. Oui. Un prisonnier que mon groupe avait capturé lors d'un accrochage dans le Djebel Zerouela, après qu'on eût tiré de lui pendant plusieurs jours. Le maximum de renseignements sur ses camarades et les activités de son groupe, c'était un chef, recherché depuis 5 ans dans tout le massif. Un grand. Un courageux, devenu un héros. J'avais été presque volontaire pour prendre en charge le commandement de cette corvée. Et au bout du compte, elle a fini par m'incomber. Le moment venu, j'ai tenu à ce que ce soit moi, et moi seul. Plutôt que Merki, ses frères. C'était mieux comme ça. Et puis, c'est moi qui commandais. Et puisqu'on n'était pas en guerre, je me suis rendu ensuite à la gendarmerie de Fondouk avec Lafontan, qui, lui, n'était pas à l'exécution. Pour une déposition en bonne et due forme. Nom de votre père? Oui. Nom de votre mère? Oui. Au cours d'une corvée de bois dans la forêt. Le hors-la-loi, Or la loi, c'était le nom officiel qui désignait dans l'armée et l'administration les combattants algériens, les moudjahidines. Le hors-la-loi avait tenté plusieurs fois de s'évader. Étant parvenu à s'enfuir, nous l'avions poursuivi et avions dû l'abattre. C'était en avril 61, près du barrage du Hamiz. Ce jour-là, on n'était plus en colo. Et puis, la vie a repris. Les gardes, les patrouilles, les embuscades, les opérations, l'alcool. Plus tard, avec quelques-uns de mes hommes, je fus décoré sur la place de délices par le général Gombeau qui commandait Alger pour la mise hors de combat de ce chef au cours de l'accrochage. J'en fus fier. Fier de porter la décoration sur mon uniforme de sortie. À mon retour, quand il la vit, mon père fut fier de moi. Des traces de tout cela, aujourd'hui encore, bien sûr. Sinon, je ne t'en parlerai pas. Pendant longtemps, conscience endormie. Et puis, peu à peu, lentement, comme une maturation, une odeur montante, de lâcher prise à toute velléité de résistance à l'environnement militaire. Une odeur d'automatisme dans la pensée qui ne pense plus, dans l'exécution des ordres et leur transmission. Au fond, une odeur de lâcheté, de coucher, de veste retournée. Ainsi, progressivement, en 2 ans, je vais cesser de combattre. J'avais donc baissé les bras. Marcher au pas de l'idée dominante. Pendant que d'autres que moi, ici et là-bas dans les deux camps, contestaient, résistaient, combattaient, manifestaient, montraient la voie à suivre. Et pour cela, était inquiété, arrêté, emprisonné, torturé, exécuté. J'avais glissé doucement jusqu'à l'extrême qu'un homme puisse faire. Jusqu'au pire. à l'irréversible. J'ai eu beaucoup de mal à m'arracher à ce pays. Tant je m'en étais épris, tant je l'avais malmené, tant j'y avais été malmené. La guerre dura encore quelques mois. Elle se termina par les accords d'Évian signés en mars 1962, entrés en application en juillet de la même année, mettent fin à 8 ans de guerre en Algérie, 10 ans dans toute l'Afrique du Nord. Les résistants de nos deux pays avaient eu raison. Il gagnait. Grâce à eux, l'évidence prenait forme. L'Algérie devenait indépendante. Merci. Une autre histoire commençait pour elle.
Ainsi donc se termine la pièce, puisqu'on peut parler de pièce de théâtre, mise en onde radiophoniquement ce soir pour Radio Canu, une première, un très beau cadeau que nous a fait Bernard Gerland, donc en direct, vous l'avez entendu. Ma guerre d'Algérie, un spectacle qu'il donne à Lyon à différents endroits, et ce week-end il était au théâtre de rue d'Annonay également. Maintenant, il nous reste quelques minutes avant 21h. Si vous souhaitez parler avec Bernard Gerland, à l'antenne ou hors antenne, on peut essayer de faire un duplex comme ça, si vous avez envie de lui exprimer quelque chose, si vous avez des questions à lui poser, si son expérience, son texte a fait résonner des choses en vous. Nous sommes à votre disposition. Il reste que nous n'avons qu'une ligne, donc je risque de s'il y a plusieurs sonneries en même temps, de vous proposer de prendre votre numéro de téléphone et de vous rappeler pour avoir les conversations l'une derrière l'autre, quoi. Voilà, en attendant vos éventuels appels, je vous laisse écouter Tao Samrouche qui interprétait les chants que nous avons utilisés comme illustration musicale pour ce récital.
En attendant quelques appels éventuels, je voudrais, si je peux me permettre, faire deux rectificatifs à ce que a dit Jean-Pierre Guinard. La première, c'est que je n'ai pas travaillé seul pour arriver à mettre cette mémoire en forme, puisque c'est de cela qu'il s'agit. J'ai travaillé avec Jocelyne Kartchenko, qui est écrivain, qui écrit des pièces de théâtre, et qui est elle-même aussi comédienne. J'ai donc travaillé avec elle l'écriture, et puis la mise en espace, la mise en forme de cette écriture. Le deuxième rectificatif, c'est que ce n'est pas une pièce de théâtre, comme vous avez pu l'entendre, et que ça ne se veut pas une pièce de théâtre. Si nous avons travaillé la forme, et si nous avons donné à cette mémoire, j'allais dire, le maximum de pudeur et de qualité, c'est précisément pour conserver toute sa dignité à cette mémoire, et toute la dignité aux gens dont on parle, et aux faits dont on parle. Il ne s'agit donc pas d'une pièce de théâtre, même si ce travail, ce récit, ce témoignage, cette mémoire peut se donner dans le cadre de théâtre, ou peut se donner, comme elle vient de se donner le week-end dernier, dans le cadre de festivals de rue, car nous estimions qu'elle avait sa place aussi dans la rue, comme ça, pour interpeller les gens. Voilà, ce sont les deux rectificatifs que je voulais faire.
Deux petites précisions, c'est vrai. Pour nous, disons que c'était une création radiophonique, je pense qu'on sera d'accord sur le mot.
Tout à fait.
Et c'est un grand plaisir de pouvoir proposer. Donc c'est un texte de 1996, c'est quelque chose de récent, que vous pourrez revoir d'ailleurs en spectacle à l'automne. On l'annoncera sûrement sur Radio Canu. D'un autre côté, donc là on arrive un peu à la fin de l'émission, je pense pas qu'on fera de passage en direct, mais on pourra prendre des coups de fil en différé après, disons, entre 21h et 21h15, si on nous appelle. Le téléphone, c'est le 78 39 18 15, je vous le rappelle quand même. Si, pour une raison ou pour une autre, vous voulez entrer en contact avec Bernard Gerland dans les jours qui viennent, vous pouvez toujours écrire plutôt que téléphoner à Radio Canu, qui vous mettra en relation avec lui. Il est prêt à donner son je ne sais plus comment il faut dire, son récit, aussi bien dans des lieux théâtraux que aussi dans des associations, des écoles, enfin toute structure qui regroupe un certain nombre de personnes susceptibles d'être sensibilisées par ce qui est dit là, quoi. Eh bien, donc pour l'instant, nous en terminerons là. Nous allons vous proposer notre indicatif. Nous vous donnons rendez-vous pour un autre Pistentelac lundi prochain. Et puis, si vous souhaitez parler avec Bernard Gerland, il attache autant d'importance à ce qui se passe après son spectacle quand il le donne que à ce qu'il fait lui-même. C'est dire que c'est quelque chose qui est important pour lui, ce dialogue d'après le spectacle. Eh bien, vous pouvez le faire en nous appelant à partir de maintenant et pendant un bon quart d'heure sur Radio Canu 78 39 18 15. Bernard Gerland, merci. Merci pour cette soirée magnifique et cette très belle émission de Bistentelac que vous nous avez offert.
Viens, je t'emmène en voyage. Du côté des nuages, du côté des mirages.
C'était Bistentelac, une émission pour la chanson poétique et d'expression.
C'est sauvage, et de leur marécage, où s'enlise ton âme.
Bistentelac, une émission de Radio Canus en 2.2 MHz, animée par Jean-Pierre qui vous dit bonsoir et qui vous donne rendez-vous pour un autre Bistentelac, lundi prochain à 20h.
Mais surtout n'oublie pas l'envers de ton miroir, où tu plantes l'espoir en marge des grimoires. Et dans ce monde de primes, tu trimes ta vie à quoi elle rime. c'est dans l'ennui servile qui fait la vie des villes. Alors choisis ta destinée, fais donc un pied de nez au cloporte fauné. Et surtout n'oublie pas l'envers de ton miroir, où tu planques l'espoir, où tes chevaux vont boire. Un jour semblé de pacotis, absent à jouer dans la brume, un défi abordé au pays de l'absurde. Automate à l'envie, en faction sous la pluie, écriture engluée de guimauve et d'asphalte, poésie détournée de leur cible première, puis de sacs assoupis dans l'ennui des rombières, nous transperçons de nos glaives en colère, nous croiserons le fer, nous croiserons le verre, à seule fin d'obtenir nos visas pour l'enfer. En enfer, du côté de Citer, Citer, pour garder l'âme légère, embraser nos chimères et larguer nos galères. Alors nous lèverons nos verres à la santé du diable, femme désirable, à l'amour, au plaisir, à l'absurde et au pire, à sa fin d'obtenir nos visas pour l'enfer. L'enfer.